Je voudrais continuer sur le thème de jeunes filles et femmes chrétiennes ou mondaines. Je vous disais hier que le monde est représenté, nous disait Saint Jean, par ces trois concupiscences de la chair, de la vue et l'orgueil de la vie, et que ces trois concupiscences militaient justement contre l'Esprit Saint, contre l'esprit chrétien. Et nous avions vu à travers saint Thomas d'Aquin que l'esprit au moins des trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance venait comme répondre à ces trois concupiscences. Saint Thomas d'Aquin y revient encore dans son traité de la tempérance en parlant de la curiosité. Et comme ce sont encore tous, cet enseignement est assis, appuyé, fondé sur les pères de l'Église, je ne résiste vraiment pas au plaisir, à la joie incommensurable de vous le livrer. Pour avoir les idées claires, au moins intellectuellement, pour ensuite passer à la pratique. Saint Augustin dit que c'est la convoitise des yeux qui rend les hommes curieux. De même, dit Bède, il s'agit de Bède le Vénérable, l'un des derniers pères de l'Église, souvent on fait terminer la période des pères de l'Église à Saint Bède le Vénérable, donc vers 735 après Jésus-Christ, bien sûr. La convoitise des yeux ne se trouve pas seulement dans l'étude des arts magiques, l'horoscope, les cartes et tout ça, le marc de café, mais encore dans l'assistance au spectacle, souvenez-vous de Saint Augustin et d'Alipius, devant les spectacles des gladiateurs, dans l'assistance au spectacle, ainsi que dans l'examen de la critique des vices du prochain. La curiosité, elle est là, à l'œuvre. Toutes choses qui sont des réalités particulières tombant sous les sens. Comme la convoitise des yeux est un vice, de même que l'orgueil de la vie est la convoitise de la chair, au dire de Saint Jean, il semble donc bien que le vice de curiosité concerne la connaissance des réalités sensibles, qui donc nous porte, comme on vient de le dire, à la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ou la convoitise des yeux. Donc il faut bien comprendre, puisque nous avons été créés corps et âme, bien comprendre le rôle de la connaissance sensible pour l'utiliser, car nous ne pouvons pas ne pas voir, on ne peut pas se déplacer dans la rue en regardant ses pieds, sous prétexte qu'il y a des choses abominables dans la rue. Donc il s'agit de faire preuve de vertu. Et c'est là la solution, bien sûr. Il y a un livre d'ailleurs qu'on m'a offert, qui est très intéressant, s'appelle l'utilité des vertus. Mais rien que le titre est mauvais, de l'utilité des vertus. Les vertus ne sont pas utiles, elles sont nécessaires. C'est pas superflu pour atteindre la fin. Bon, mais c'est peut-être un bon livre, mais le titre déjà est bon. Alors revenons à Saint Thomas d'Aquin. La connaissance sensible a deux buts. D'une part, chez les hommes comme chez les autres animaux, donc c'est bien notre part animale qui fait que nous avons une connaissance sensible, nous ne sommes pas que des êtres spirituels, vous vous en rendez compte tous les matins au moment du lever et à table. Bon, donc les hommes comme les autres animaux, cette connaissance sensible est ordonnée au soutien du corps, car c'est par cette connaissance que les hommes et les autres animaux évitent ce qui est nuisible et trouvent ce qui est nécessaire à la vie du corps. Sa nourriture. D'autre part, ou son réveil. Bon. D'autre part, spécialement chez l'homme, différence spécifique quand même, la connaissance sensible est ordonnée à la connaissance intellectuelle, spéculative ou pratique. Donc, connaître pour savoir ou connaître pour agir. Connaissance spéculative ou pratique. S'appliquer à l'étude de ce qui tombe sous les sens peut donc être vicieux de deux façons. Puisque, vous savez, c'est une vertu, donc forcément c'est un milieu entre un excès et un défaut. D'une première façon, dans la mesure où la connaissance sensible n'est pas ordonnée à quelque chose d'utile, mais détourne plutôt l'homme d'une réflexion profitable. Première manière pour la connaissance sensible d'être nuisible, c'est d'être utile. Exemple. Saint Augustin a écrit « Je ne vais plus au cirque, parce qu'il était donc, il était chrétien, je ne vais plus au cirque voir un chien courir après un lièvre. Ça faisait partie sans doute des jeux du cirque que de voir un chien courir après un lièvre. Bon. C'est pas plus idiot que de voir des gens taper dans une balle. Bon. Alors, je ne vais plus au cirque voir un chien courir après un lièvre, mais que le hasard, dans un champ où je passe, m'offre cette chasse, elle m'accapare, me détourne peut-être même d'une profonde méditation. Et si vous ne m'avertissez pas sur le champ, en me montrant ma faiblesse, j'ai l'absurdité de rester là, bouche bée, devant un chien qui court après un lapin. Oui. Donc c'est pas utile. C'est la distraction, chers amis. Vous avez reconnu, je pense. Une distraction et, bon, je vais faire ma méditation. Et puis, ben, on regarde par la fenêtre les chiens qui courent après les chats. Bon. La distraction, c'est pas utile à ce que je à ma collègue ici. Oui, c'est une connaissance sensible qui n'est pas utile à la réflexion de l'esprit. Utilité. D'une autre façon, dans la mesure où la connaissance est ordonnée à quelque chose de nuisible, lorsque, par exemple, le regard porté sur une femme est ordonné à la convoitise, ou bien lorsque l'examen attentif de ce que font les autres est ordonné au dénigrement. Vous voyez, donc le regard que l'on porte sur les autres, convoitise, charnel ici, orgueil de la chair, enfin, concupiscence de la chair, ou ici, ou dénigrement des autres. Orgueil de la vie, on affirme sa supériorité par rapport aux autres, on observe quelqu'un, n'est-ce pas, pour le dénigrer. Pour relever ses défauts. Au contraire, si l'on s'applique à la connaissance des choses sensibles de façon réglée, à cause de la nécessité où l'on est de maintenir sa nature, ou en vue d'arriver à la connaissance de la vérité, la studiosité, donc l'application de l'esprit aux objets de connaissance, est vertueuse, y compris la connaissance sensible. Et ici, il y a quelque chose de très important, c'est de savoir effectivement observer. On ne peut pas vivre, je vous disais, regarder ses chaussures toute la journée. Mais que l'esprit, toujours, sache analyser les choses et rechercher la vérité en se défiant de sa nature. Un regard trop appuyé peut éveiller des sentiments de luxure ou au contraire de méchanceté parce que la personne, on l'a un peu dans le nez, comme on dit, et donc on va attendre, en fait, on va épier le moindre faux pas. Donc c'est très important de savoir que cette connaissance sensible est vertueuse si elle est réglée par l'application de notre esprit qui utilise, qui induit, utilise ces données de la connaissance sensible en se gardant de l'inutilité, l'oisiveté, la nuisance pour soi-même, spécialement par la convoitise de la chair, ou par le dénigrement, la médisance. Saint Jean Chrysostome, d'ailleurs, précise, dans les réponses, je vais vite, c'est que, à propos des spectacles, il dit, ce qui rend mauvaise l'assistance au spectacle, c'est qu'il porte l'homme au vice de luxure ou de cruauté qu'il représente. C'est spécialement vrai, bien sûr, avec les gladiateurs, par exemple. Luxure, bon, des spectacles mauvais. Ça n'a pas changé aujourd'hui avec la télévision en particulier, ou Internet. C'est pourquoi Saint Jean Chrysostome dit que la vue de tels spectacles rend adultère et impudique. Adultère, au moins en esprit, et impudique, parce qu'on s'habitue à regarder, à épier de manière malsaine tel objet qui peut éveiller donc ce qu'on a dit. Donc voilà un petit peu pour poursuivre la réflexion que nous avions commencée hier. Cette réflexion, cette attention sur notre agir, sur nos mœurs, est importante pour nous éviter de tomber, bien sûr, mais surtout pour nous améliorer, nous corriger de nos défauts. Et je voudrais à ce propos vous parler de Sainte Monique dans les Confessions de Saint Augustin, c'est le livre 9. C'est un passage que je ne vous ai pas indiqué. Car Sainte Monique était tombée dans un petit vice. Et elle a su s'en corriger en utilisant la méchanceté d'une personne. Ça peut être une leçon pour nous. Voilà ce que dit Saint Augustin, donc son fils, qui tient bien sûr la chose de sa maman, de sa mère. Voici ce que dit saint Augustin. Les amis vous gâtent par leur flatterie. Mais souvent aussi, les ennemis vous corrigent avec leurs insultes. Et il faut arriver, comme Dieu tire du mal un bien, je crois qu'il faut arriver à tirer bien de toute chose, y compris, comme on va l'illustrer, des insultes. Alors, qu'a fait Monique ? Elle avait reçu, c'est raconté, je ne vais pas tout lire, elle avait reçu une très bonne éducation, très stricte, comme on savait faire à l'époque, et avec beaucoup de bon sens. Je ne vais pas tout raconter. Et notamment, elle était, dans une maison, la Domus, et il y avait une vieille servante qui était attachée à s'occuper des enfants, spécialement des jeunes filles. Plus encore que le zèle de sa mère, donc la grand-mère de Saint-Augustin, à la bien former, elle vantait, Monique, celui d'une vieille servante qui déjà avait porté son père tout enfant, comme les jeunes filles, un peu grandelettes, portent à dos les bambins. Bon. Donc elle est vraiment une vieille servante attachée à la famille, comme malheureusement on n'en voit plus. Ce souvenir, sa vieillesse, sa vie toute d'honnêteté, lui valait dans cette maison chrétienne une réelle déférence de la part de ses maîtres. On estimait cette vieille servante qui avait servi tant de générations. Aussi lui avaient-ils, les parents, confié la conduite de leur fille, dont Monique. Elle y apportait tous ses soins et mettait à les reprendre, quand il en était besoin, une sainte et véhémente sévérité, comme aussi une prudence pleine de tact à les instruire. Et elle avait une attention particulière à ne pas laisser les enfants faire ce qu'ils voulaient constamment. Et ça va peut-être vous surprendre. Elle ne souffrait pas qu'en dehors des repas, fort simples d'ailleurs, pris à la table de leurs parents, dont les enfants mangeaient avec leurs parents, ces jeunes filles bussent même de l'eau, si ardente que fût leur soif, en dehors des repas. Elle prévenait ainsi une habitude funeste et leur disait dans son bon sens, « Vous ne buvez que de l'eau parce que vous n'avez pas de vin à votre disposition. Mais une fois mariée, et est devenue maîtresse des réserves et des celliers. L'eau ne vous dira plus rien, et l'habitude de boire prévaudra tout de même. » Vous voyez, c'était pensé. Et semble-t-il, elle n'avait pas inventé, elle avait expérimenté. Donc voilà, ça faisait partie des conseils qu'a reçu la petite Monique, jeune fille. Et puis jeune fille, elle devient adolescente. Et pourtant, il s'était glissé en Monique, en elle, un goût pour le vin. Comment ? En sa qualité de jeune fille raisonnable, bien éduquée, impeccable, devant papa-maman, pas de problème, et chez les dominicaines, tout ça, bref. Voilà, ses parents l'envoyaient, comme c'est l'usage, tirer du vin au tonneau. Monique allait chercher à boire. Elle plongeait la coupe dans l'orifice ménagé vers le haut du dit tonneau, mais avant de transvaser le liquide dans la carafe, elle en buvait un peu du bout des lèvres. Elle n'allait pas plus loin, parce que l'envie lui en manquait. Car ce qu'elle en faisait, ce n'était nullement par amour de la boisson, non, elle était quand même, c'était juste à tremper les lèvres, mais par cette pétulance débordante de la jeunesse, qui se dépense en mouvement, en espièglerie, et n'est mise au point chez les enfants que par la ferme autorité des parents. Donc il y a tout petit, c'est pas grand chose, elle trempait les lèvres, puis voilà, puis elle apportait à boire. Seulement, ajoutant d'un jour sur l'autre petite gorgée à petite gorgée, le mépris des petites choses conduit ainsi insensiblement à la chute. Elle se laissa aller à l'habitude de boire avidement des coupes entières, jusque pleines à peine à rabord, de vin pur. Où était à ce moment-là cette vieille si sage et ses défenses formelles, la vieille servante qui lui avait donné? Et Monique, c'est ce qu'il a su qu'après, ne s'en rendait pas compte. C'était une habitude, elle avait pris un petit coup. Bon. Ça veut être la priorité du matin, du midi. Contre cette maladie cachée, quel remède efficace, parce que la servante était morte, et si votre grâce médicinale, Seigneur, ne veillait pas sur nous, quel remède? Ni son père, ni sa mère, ni ses éducateurs n'étaient là. Mais vous, Seigneur, vous étiez présent. Vous, qui nous avait créés, qui nous appelait à vous, et qui, fût-ce même de personnes interposées, savait tirer quelque bien pour le salut des âmes. Que fîtes-vous alors, ô mon Dieu? Comment l'avez-vous traité? ma mère. Comment l'avez-vous rendu à la santé? N'est-il pas vrai que de l'âme d'une autre personne vous tirate une insulte dure et perçante comme l'acier guérisseur, extrait de vos réserves mystérieuses pour extirper d'un seul coup en elle la partie corrompue? Dieu va se... Alors, comment ça s'est passé? Réponse. La servante qui l'accompagnait, d'ordinaire au tonneau, étant entrée un jour en querelle avec sa jeune maîtresse, comme il arrive, donc là, elle est mariée maintenant, elle est jeune maîtresse de son foyer, Monique, et elle se querelle avec une servante. Ça arrive. Le concierge, tout ça, des disputes. Alors, seule à seule, cette servante, querelleuse, s'arma de ce grief et lui lança insolemment l'épithète fort désagréable de biberonne. Bon, en latin, c'est miri bibula. Ça biberonne, hein, bon, voilà. Le trait porta. La jeune fille se rendit compte de ce que son habitude avait de répugnant. Elle l'a pris en horreur aussitôt et elle s'en défie. Et ensuite, il explique justement, comme je disais, les amis vous gâtent de flatterie, mais souvent, les ennemis vous corrigent avec leurs insultes. Ce n'est pas l'effet obtenu en vous, servant d'eux, que vous leur faites payer, Seigneur, mais l'intention qu'ils ont eue de nuire. Ce que voulait cette servante dans sa colère, c'était vexer sa jeune maîtresse, non pas la guérir. Aussi ne le fit-il qu'à l'insu de tous, soit que le lieu et l'occasion de la dispute les eussent trouvés seuls, ou peut-être bien parce qu'elle craignait de se mettre dans un mauvais cas en dénonçant si tardivement la délinquante. Mais vous, Seigneur, maître du ciel et de la terre, qui tournez à vos fins les abîmes du torrent et le cours des siècles, c'est par la fureur d'une âme que vous avez guéri une autre âme. À réfléchir sur cet exemple, nul ne s'en ira attribuer à son influence personnelle l'amélioration que ses paroles obtiennent chez tel autre qu'il souhaite de voir améliorer. Vous voyez, c'est l'exemple, c'est s'il n'y avait pas eu de persécuteur d'enragé contre la religion, il n'y aurait pas de martyr. Vous voyez, le mal, Dieu se sert du mal pour faire un plus grand bien. Bon, j'ai pas le temps de lire. Il y a ensuite, bien sûr, le récit comment Monique est arrivée à adoucir son mari, n'est-ce pas ? En ne faisant pas comme les autres femmes qui étaient disputeuses, querelleuses et qui passaient leur temps entre elles à dénigrer leur mari. Ça arrive, ça. Parfois même en révélant des choses qui relèvent vraiment de l'intimité du couple, par exemple. Eh bien, cette Monique s'est pas du tout prise comme ça. Elle a au contraire redoublé de douceur jusqu'à transformer le cœur de son mari. Si bien qu'elle était la seule dans son quartier, elle explique ça, je n'ai pas le temps de lire, qui n'était pas battue par son mari. Oui. C'était même, ça se voyait sur la tête qu'elles étaient frappées, cognées. Quoi. À l'époque, ça. Bon. Et Monique, elle était. Son mari ne l'a jamais touchée. Et. Bref. Après, il y a Monique et sa belle-mère. Et etc. Bon, ça. Donc voilà quelques conseils pour vous donner, pour vous expliquer comment, à travers le regard des autres sur vous, au lieu de souvent c'est ça, on se redresse, on boue intérieurement, on prend à mal une remarque parfois méchante, mais souvent il y a peut-être un fond de vérité à travers cette remarque qu'on peut vous faire, et il y a un bien toujours à tirer, même des plus grands mots. Passons à autre chose qui fâche. C'est règlement de compte. Il faut même que je me dépêche. On vous a distribué, n'est-ce pas, ici même, des différents tracts ou conseils à une jeune fille pour acquérir la stabilité. En 12 points. Le voile des femmes à l'église, parlons-en. La lettre de l'abbé Simoulin, là, sur aux mamans. Et comme hier, je n'ai pas abordé ces questions. Il me semble peut-être intéressant de poser la question. Dans ses conseils à une jeune fille pour acquérir la stabilité, vous avez sans doute remarqué avec moi, j'ai découvert ça après ma conférence, que 4 des 12 points traitaient des vêtements et de la toilette. C'est un tiers quand même des conseils à une jeune fille. Bon. Ce qui m'a étonné, et peut-être n'est-ce pas étonnant. Et je me suis dit, si ça a une telle importance, même si, bon, bref, S'il y a une telle importance, c'est peut-être parce que c'est que Saint Thomas d'Aquin a forcément dû en parler. Si Saint Thomas d'Aquin n'en parle pas, c'est que bon, peut-être qu'on parle sur des fausses voies. Et donc j'ai pris au hasard dans la somme théologique, enfin au hasard, bon, le traité sur la tempérance. On retrouve justement cette modération à la fois dans la connaissance sensible, dans par rapport à la concupiscence de la chair, l'orgueil de la vie, l'orgueil des yeux, la concupiscence des yeux. Et en cherchant, on trouve. Saint Thomas d'Aquin donc étudie différentes parties potentielles, donc des sous-parties, si vous voulez, de la grande vertu de tempérance. Vous savez que prudence, justice, force, tempérance sont les quatre grandes vertus morales qui secondent les vertus théologales, foi, espérance, charité. Et donc, bon, il parle de la clémence, la mansuétude, la continence aussi, la sobriété, bien sûr. Sobriété, c'est par rapport au vin, abstinence, c'est par rapport à la nourriture, au solide. Il parle de la colère, la cruauté, justement, et on retrouve justement les textes de saint Augustin sur les spectacles, tout ça. Et puis, il a une question 160 sur la modération, l'humilité, l'orgueil, tout ça. Bon, je passe. Et la curiosité. J'ai pas le temps de lire tout ça, ce serait pas... Et puis, il termine sur la modération dans les mouvements extérieurs du corps. Alors, je vais voir si ça traite un peu la question. On trouve quelques citations des pères de l'Église, comme ceci. Bon, je dis ça au hasard. Le vêtement d'un homme, le rire de ses lèvres et la démarche d'un homme révèlent ce qu'il est. C'est une citation de l'Écriture sainte. C'est l'Ecclésiastique, chapitre 19, verset 27. Le vêtement, le rire, la démarche révèlent ce que l'on est. Saint Ambroise. Le corps est le miroir de l'âme. Les mouvements extérieurs sont comme l'expression de l'âme. Saint Ambroise encore. Que les mouvements du corps, soient naturels. Mais si ce naturel est fautif, il faut s'appliquer à le corriger. Preuve qu'il peut y avoir dans ce mouvement, dans cette attitude, rire, vêtements, attitude, démarche, il peut y avoir des choses plaquées, artificielles, ou voire inutiles ou nuisibles. Revenez à ce qu'on a vu tout à l'heure avec saint Thomas d'Aquin. Et toujours saint Ambroise, qui décidément a écrit là-dessus, « L'homme extérieur révèle l'homme caché dans le cœur, sa légèreté, sa vanité, son agitation, ou au contraire, sa gravité, sa constance, sa pureté, sa maturité. C'est sous l'extérieur, commente saint Thomas d'Aquin, que les autres nous jugent. À son air, on connaît un homme, et au visage qu'il présente, on connaît le sage. » C'est encore une citation de l'Écriture sainte. Je pense. Bon. Donc, quelques pistes. Mais le plus intéressant, c'est la question 169 de la Segunda Secundae de la Somme Théologique de Saint Thomas d'Aquin, qui s'appelle « La modération dans l'appareil extérieur ». Non pas dans les mouvements du corps, mais dans l'appareil extérieur. Et là, il a deux questions, la première et la deuxième. La première, cette vertu de modération dans l'appareil extérieur, hein, en latin c'est « in exteriori apparatu », donc l'apparence extérieure. Est-elle la modération ? Enfin non, l'appareil extérieur est-il l'objet d'une vertu et d'un vice ? Et deuxième question, l'excès de parure féminine est-il un péché mortel ? Donc c'est important, c'est dans laquelle on parle. Docteur Coman de l'Église, il avait quand même beaucoup de choses à faire, il est très occupé, il a peu vécu, donc s'il a traité, c'est que c'était important. Article 1, les ornements du corps peuvent-ils être l'objet d'une vertu ou d'un vice ? Après tout. Je vous le dis parce que les principes sont là. Première difficulté, ben non. Le penchant aux vertus est naturel, tandis que les ornements du corps ne le sont pas, et varient suivant les temps, les lieux. Vous voyez, autrefois à Rome, dit saint Augustin, c'était une infamie de porter de longues robes à manches. Tandis qu'aujourd'hui, ce serait une honte pour les fils de famille distingués de ne pas les porter ainsi. La mode change. D'ailleurs, vous voyez, moi-même, j'ai la mode de Rome années 400. Robe à manches longues. Ce serait une infamie pour un fils de bonne famille que de ne pas porter ainsi des robes à manches. Bon. Deuxième objection. Si c'est une vertu, il y a un excès, il y a un défaut. Trop, pas assez. Alors ça, c'est une objection que vous pouvez envoyer dans la main d'un prêtre qui vous ferait une remarque. Si c'est une, vertu que la modération dans l'appareil extérieur, il y a un excès, il y a un défaut. Mais s'il y a un excès, un défaut, alors ces excès et défauts sont vicieux, puisque le milieu est vertueux. Or, les prêtres et les ministres des autels se servent des vêtements les plus précieux, avec beaucoup de recherche. C'est brodé au fil d'or, enfin, je sais pas. Bref. Et d'autre part, certains saints personnages sont loués, au contraire, d'avoir erré, ça et là, couverts de peaux de brebis et de chèvres. Saint Jean-Baptiste dans le désert. Donc, vous voyez, on prend deux excès, ben, dans ce cas, ils sont fautifs. C'est vicieux si on dit que le milieu est une vertu. Objection qui semble peut-être vous plaire. Manifestement, ça vous plaît. Bon. Troisième objection, écoutez, cette vertu ne se trouve ni dans les vertus intellectuelles, il y a science, sagesse, intelligence, ni dans les vertus théologales, foi, espérance, charité, il n'y en a pas une quatrième qui s'appellerait la modération dans le port du voile ou le non-port du pantalon. Donc, quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, il y a trois objections qui peut-être, qu'on retrouve d'ailleurs dans la lettre, dans les quatre pages que vous avez eues hein, sur le voile des femmes à l'Église. Parlons-en. Et donc ça, c'était les objections, je précise. Il ne faut pas retenir que les objections comme Voltaire, il faut bien écouter la réponse de saint Thomas d'Aquin et la réponse aux questions. La réponse de saint Thomas d'Aquin est en deux temps et trois mouvements. D'abord, il répète ce que dit saint Ambroise. Dans les ornements du corps, doit garder toujours une certaine honnêteté. Déjà, honnêteté. En eux, pas d'affection, rien que de naturel. De la négligence plutôt que de la recherche. Des étoffes communes et non pas précieuses et éclatantes. En un mot, que rien ne manque de ce qui est honnête et nécessaire, mais que la beauté soit à elle-même sa seule parure. Donc les ornements du corps peuvent être l'objet d'une vertu et d'un vice, puisqu'on voit qu'il peut y avoir affectation, recherche, précieux, tout ça, ou au contraire... on remplace une beauté artificielle, disons. Alors écoutez ça, parce que tout est là. Ça, c'était Saint-Augustin, Saint-Ambroise, cité par Saint-Thomas d'Aquin comme argument d'autorité. Le corpus explique ça, c'est un peu long, comme quoi c'est important. Nous ne sommes pas... Qui veut faire l'ange fait la bête, hein, n'oublions pas ça. Alors, je passe. Il explique comment... Dans l'appareil extérieur, dans les choses extérieures, l'usage des choses extérieures, c'est dans l'usage que fait l'homme, que peut se glisser un vice ou pas. Un vice, dans les choses extérieures, qui sont à l'usage de l'homme, le vice ne vient pas de ces choses elles-mêmes, mais de l'usage qu'en fait l'homme. Et cela arrive de deux manières. Tout d'abord, par rapport aux usages de ceux avec qui l'on vit. Donc la dimension sociale, la dimension politique de l'homme. L'homme est un animal social. On peut pas faire abstraction de avec qui on vit. On ne peut pas dire, moi je vis comme je veux. Si les autres ont le mauvais regard sur moi, on y soit qui mal y pense. Voilà. Parce qu'on m'a dit ça à Saint-Nicolas, ça m'arrivait plusieurs fois, une dame là qui me disait, mais je n'ai pas l'impression d'être mal habillé. Vos impressions, vous êtes dans une église. Voilà. Elle me dit, oui, mais il fait chaud dehors. Ah oui, mais c'est dehors. Donc, premier point. Deuxième point, à cause de la passion déréglée de celui qui use de ces choses, qu'elles soient ou non conformes aux usages établis. Ça, on s'en fait. C'est la passion qui est là. En pareille matière, dit saint Augustin, nous devons nous attacher à bannir la passion qui fait d'abord un abus criminel des coutumes autorisées dans le milieu où nous vivons, et qui même, franchissant toutes les bornes, éclate d'une manière honteuse et étale au grand jour des convoitises, jusqu'alors cachées sous le voile des mœurs publiques. Bon, à l'époque où, quand même, les mœurs publiques étaient plus saines que les nôtres. Et saint Thomas d'Aquin explique comment cette passion de vouloir paraître, c'est ça, la coquetterie qui joue sur la passion, eh bien peut être déréglée, par excès ou par défaut. Trois manières d'être déréglée par excès. Trop de recherche dans l'appareil extérieur. Premièrement, par vaine gloire et ostentation. Il en est, dit Saint Grégoire le Grand, qui fut pape, qui croit que la recherche des vêtements fins et précieux n'est pas un péché. Mais alors pourquoi l'Évangile aurait-il si expressément remarqué que le mauvais riche, tourmenté en enfer, était vêtu de pourpre et de lin fin? Non, ce que l'on cherche dans les vêtements précieux, c'est-à-dire au-dessus de sa condition, c'est la vaine gloire. Vous voyez, le mauvais riche, qui soignait pas Lazare, était avare, et puis voulait vraiment jeter plein la vue par une vie en refusant l'aumône et en dilapidant son bien dans les vêtements précieux. Bon. Donc, ostentation, vaine gloire. On vit au-dessus de sa condition. C'est plus répandu qu'on ne le croit. N'est-ce pas? La mode change, alors il faut absolument changer la garde-robe. N'est-ce pas? Bon. Alors, une année, c'est plus court, après c'est plus long, après c'est fendu, après c'est pas fendu. Enfin, bon. Alors, si on a jeté la mode il y a 20 ans qui va revenir, parce que, bon, il n'y a pas 30 ans. Bref, on se mord les doigts. Bref. Deuxièmement, ça demande quelqu'un très rapide, je vais être un peu plus long. Par délicatesse et bien-être corporel. Par délicatesse. Alors, moi, je supporte pas, les bas, la jupe, machin, etc. Alors, je peux pas. Et le bien-être corporel. Donc, ça, c'est ce que me disait cette dame il n'y a pas si longtemps. À un mariage, je vois que ça, enfin, bon, vraiment, habillée, pas frileuse. Alors, je sors, puisque je confessais, j'étais à la gare Saint-Nicolas, et je sors, et je lui dis, excusez-moi, madame, enfin, mademoiselle plutôt, vous êtes dans une église. Et. Et c'est elle qui m'a dit justement, il fait chaud. D'ailleurs, elle a dit, il fait chaud. Moi, j'ai cru que c'était une touriste, vous savez, qui rentre comme ça. Elle dit, mais je suis cousine, je suis dans le mariage. Ah, je suis désolé, mais enfin, c'est quand même une église, quoi. Oui, mais il fait chaud dehors. Et c'est là, je lui dis, oui, mais c'est dehors. Ici, vous êtes dedans. Voilà. Il dit, moi, je suis en soutane. Il fait chaud aussi. Bon, elle a compris. Hein. Alors, troisièmement. Donc, vous voyez, le bien-être. On voit aussi, bon, ça, c'est pareil pour les hommes, hein, je leur dis, il n'y a pas peur, il n'y a pas que vous. On est très bien habillé toute la semaine, et puis le dimanche, c'est relâche, relax, c'est jean basket. On voit ça, t-shirt. Alors que, c'est vraiment être endimanché, c'est le dimanche. Là, ils sont endimanchés en semaine, c'est comme ça. Bon, troisièmement, le bien-être, on vient comme on est devant la télévision, comme on est, je vois des gens aussi, comme ça, il est à l'aise, il dit, moi c'est comme ça, c'est quand je regarde un match de foot à la télévision, j'aime bien me mettre, en tenue de foot, quoi. Et quand je vais le dimanche, c'est dimanche, jour du repos. Alors, on se repose. Qu'est-ce qu'on entend parfois? Il faudrait faire un bêtisier. Troisièmement, par sollicitude exagérée, même si l'on ne se propose pas une fin mauvaise. Pas forcément, on dit, je vais chercher à faire tomber des hommes, tout ça, non. Mais il n'y a pas forcément la fin mauvaise, mais il y a quand même une sollicitude exagérée. Et là, il faut voir, mesdames, mesdemoiselles, dans votre emploi du temps, le temps que ça prend à mettre les onguents, les phares dont parlait Ovid. Que j'ai raconté. À ce triple désordre, Andronicus, c'est le troisième siècle avant Jésus-Christ. Saint Thomas d'Aquin cite un païen. C'est un poète, un des premiers poètes latins, je crois. Troisième siècle avant Jésus-Christ, je crois. Alors, Andronicus opposait trois vertus. Vous voyez, les païens aussi. Première vertu qu'il oppose face à cette sollicitude exagérée pour l'appareil extérieur. Je vous ai jamais senti aussi attentif. Premièrement, l'humilité. Qui exclut la vaine gloire et qui réprime l'exagération dans les dépenses et les apprêts. L'humilité. Ça va contre l'orgueil. On retrouve bien l'orgueil de la vie. Et pourtant, c'est une sagesse purement de bon sens, humaine. Deuxièmement, le contentement de peu, qui exclut la délicatesse et détermine ce qui suffit à la vie. Si nous avons de quoi nous nourrir et nous couvrir, nous sommes satisfaits, dit-il. Enfin, après le contentement de peu, ça vient un peu au même d'ailleurs, la simplicité, qui exclut les inquiétudes superflues à ce sujet et prend les choses comme elles viennent. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils vont passer de moi? Pourquoi? Les amis, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Soyons simples. Vous êtes bien habillés pour Dieu, le reste, on s'en fiche. Humilité, contentement de peu, simplicité. Si vous réfléchissez un peu, ces vertus vont contre l'orgueil, orgueil de la vie, et aussi contre la... Et puis contre le... Contentement de peu, simplicité, ce sont des vertus un peu de pauvreté. L'esprit de pauvreté, hein, vous vous souvenez, qui va justement contre la... la concupiscence de l'orgueil des yeux, l'ostentation. Oui. Donc ça, c'était par excès. Par défaut, ça peut exister. Le dérèglement par défaut peut se produire de deux façons. La première, par négligence, en ne prenant ni le soin ni la peine exigée en pareille matière. Aristote traite de mou, en latin c'est... je sais pas où c'est. Oui, molitième, c'est ça. Donc, Aristote traite de mou celui qui laisse traîner son vêtement au lieu de faire un effort pour le relever. Alors ça, on voit ça aujourd'hui chez les jeunes en particulier, enfin, les jeunes gens même. Ils sont là, on croirait qu'ils vont marcher sur leurs pantalons, vous savez. On sait plus ce que c'est d'ailleurs, si c'est... Et voilà. Il y a parfois, quelqu'un dans une école laïque, enfin publique, qui disait c'est effroyable. Les garçons, ça descend par le bas, et les filles, ça descend par le haut. Bon. Je sais pas, vous avez vu, on voit ça dans le métro, des gens qui à Paris, des garçons qui on sait pas où. Peut-être qu'ils vont peut-être grandir, alors il faut qu'ils ont pris au-dessus pour... mais je crois pas que ce soit par pauvreté. Hein. En plus, ça coûte cher. Donc, Aristote traite de mou celui qui laisse traîner son vêtement au lieu de le faire un effort pour le relever. Deuxièmement, par vaine gloire, employant à ses fins ce défaut même. On peut mettre de la vanité non seulement dans l'éclat et le luxe, comme on a vu, donc par excès, de tout ce qui tient au corps, mais jusque dans l'extérieur négligé. Ça aussi, ça c'est très 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 actuel. C'est un extérieur négligé, mais très étudié. Ouais. Alors ça, on voit ça chez dans les idoles des jeunes. Là. Ils sont, c'est très très 2 heures pour être coiffé en pétard. Donc jusque dans l'extérieur négligé, symbole du deuil et de la tristesse, vanité alors d'autant plus dangereuse qu'elle cherche à tromper sous les dehors de la religion. Bon là, c'est à l'époque où évidemment une mine où on était moins individualiste qu'aujourd'hui et où le deuil, on était spécialement négligé. Quoi. Bon. Donc, c'est une citation de saint Augustin. Aristote dit aussi que l'exagération, soit en trop, soit en moins, sent également le fanfaron et le charlatan. Celui-là, c'est pas franc. Il joue un personnage. Donc attention à ceux qui... On se singularise, vous voyez. On cherche à... Et derrière, il y a préoccupation de soi, orgueil de la vie. Et, tout se tient. Solution. Il faut quand même répondre aux solutions. Première objection, on disait, tout ça c'est naturel. C'est pas, c'est pas naturel, c'est artificiel, les ornements du corps. Faut pas y voir la vertu partout. Vous êtes moraliste, monsieur l'abbé. Bon. Réponse. Les ornements extérieurs du corps ne sont pas naturels, c'est sûr. Mais la raison qui doit y veiller est naturelle. C'est notre raison naturelle. Et par là même, la vertu en est la modératrice. Donc, la vertu. Donc c'est vraiment l'emploi des choses d'ici-bas qui... Deuxième objection, c'était, regardez-vous les prêtres. Il y en a qui sont, vraiment, c'est magnifique, d'autres, c'est pitoyable. Donc c'est pas vertueux. Réponse. Les personnes constituées en dignité, ou encore les ministres des autels, se revêtent d'habits plus précieux, non par gloriole, on sait bien que c'est pas nous... C'est pas moi, Thouvenot, qui est honoré, mais pour symboliser l'excellence de leur fonction ou du culte divin. Il n'y a donc pas péché à cela. Bon. Comme l'excès, le défaut peut être un péché, qui consiste non pas à user de vêtements plus vils, mais à le faire par jactance ou orgueil, par manifestation d'une sainteté supérieure et ses péchés alors par superstition. Bon, je passe. Si on le fait pour macérer la chair ou humilier l'esprit, c'est un acte de tempérance. Dans la vie commune, dit saint Augustin, dans la vie commune, quiconque use des choses passagères avec plus de modération qu'on ne le fait autour de lui, pardon, agit par tempérance ou par superstition. Soit c'est par tempérance et c'est bien, soit c'est pour superstition ou alors pour se faire voir, c'est mal. Alors, effectivement, il peut y avoir une pauvreté, je vais jeûner au pain sec et à l'eau, puis je veux que ça se sache. Bon, la vertu ici, l'orgueil est là, attention. L'usage de vêtements vils convient spécialement à ceux qui prêchent la pénitence par la parole et par l'exemple, comme firent les prophètes dont parle ici saint Paul. Le prédicateur de la pénitence doit porter les insignes de la pénitence. Bon. Mais là, on comprend pourquoi. Enfin, troisièmement, c'est l'objection de dire, vous en faites tout un plat, c'est quand même pas une vertu théologale ou une vertu intellectuelle. C'est quand même pas des sujets, bon, réponse, l'appareil extérieur est un certain indice de la condition des hommes. Dès lors, l'excès et le défaut, comme aussi le juste milieu, peuvent se ramener à la vertu de vérité, à laquelle Aristote assigne pour objet les paroles et les faits qui peuvent être révélateurs de ce que l'on est. En fait, il s'agit, vous voyez, de même que nos paroles, que nos faits, nos mœurs, révèlent ce que nous sommes, notre vertu, notre état de chrétien, et bien que nos vêtements aussi, tout simplement. Voilà. Si je vous dis que je suis prêtre, je pense que vous ne serez pas étonné. Ça se voit. Aujourd'hui, ça ne se voit pas toujours. Article 2. Ça prend beaucoup de temps, mais la parure féminine est-elle exempte de péché mortel? Non, semble-t-il. Les objections disent, non, il n'y a pas de péché mortel dans la parure féminine. C'est objection. Non, la parure féminine n'est pas exempte de péché mortel. Donc elle est péché mortel. Exemple Saint-Pierre. Que votre parure, dit Saint-Pierre aux femmes, ne soit pas celle du dehors, les cheveux tressés avec art, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Saint-Cyprien, évêque de Carthage, celles qui se revêtent de soie et de pourpre ne peuvent sincèrement revêtir le Christ. Celles qui se parent d'or, de perles, de colliers ont perdu la parure de l'âme et du corps. Donc là, évidemment, c'est là le luxe abondant et les frivolités qui, à l'époque, nécessitaient et beaucoup d'argent et aussi beaucoup de temps. C'est des heures pour faire une tonne. Deuxièmement, écoutez bien. Saint Cyprien, je vais prendre mon gilet pare-balles. Ce ne sont pas seulement les vierges ou les veuves, mais les femmes mariées elles aussi, et toutes les femmes, sans exception, auxquelles il faut dire qu'il leur est interdit d'adultérer l'œuvre et la créature de Dieu en usant de teintures blondes, ou de poudre noire, ou de rouge, ou de quelque autre préparation destinée à modifier leurs traits naturels. Elles font violence à Dieu en essayant de refaire ce que lui-même a fait. Elles attaquent une œuvre divine, elles trahissent la vérité. Vous ne pourrez pas voir Dieu si vous n'avez plus les yeux que Dieu a fait. Là, c'était tout le travail des yeux, vous savez, les Égyptiens aimaient beaucoup tout ça, les yeux teinturlurés, puis étendus, le lifting, je sais pas. Vous ne pourrez pas voir Dieu si vous n'avez plus les yeux que Dieu a fait, mais ceux que le diable a contrefait. Vous avez accepté les parures de votre ennemi, vous brûlerez pareillement avec lui, avec le diable en enfer. C'est ça. Ça va? Bon. Troisième objection. Puisqu'il ne convient pas plus à une femme de se parer indûment que de revêtir un habit d'homme, ce qui est défendu dans la loi de Dieu, saint Paul, une femme ne portera pas un habit d'homme et un homme ne mettra point un vêtement de femme. Ce sont des objections. Alors, un espoir secret entre vos cœurs, je le devine. Réponse. Alors, c'est un peu long encore, mais c'est drôle. Bon. Saint Thomas d'Aquin avait une petite question pour s'amuser. Alors, conclusion. Les principes sur les ornements du corps en général s'appliquent ici, en y ajoutant cette remarque spéciale, à savoir que les ornements féminins sont des provocations à la luxure. C'est dans ce but-là qu'elles sont évidemment éminemment mauvaises et qu'elles peuvent être incitation formelle à des péchés de luxure. Et voilà qu'une femme, alors il cite les livres des Proverbes, et voilà qu'une femme l'aborde, parée comme une courtisane et préparée à séduire les âmes. Ça, je vous dis, parfois il y a des jeunes filles, enfin, je pensais, cette femme que j'ai vue à l'occasion d'un mariage à Saint-Nicolas, enfin, si j'avais une sœur, j'ai pas de sœur, si j'avais une sœur, j'aurais eu honte à la rencontrer ainsi. Enfin, cependant, il est permis à une femme de se parer pour plaire à son mari. Ouf. De peur qu'il ne la dédaigne et ne se laisse séduire par d'autres. La femme mariée, dit saint Paul, a souci des choses du monde. Elle cherche à plaire à son mari. C'est normal. Et donc, il ne faut pas être, évidemment, repoussante pour son mari. Quand donc elle se pare dans ce but, elle peut le faire sans péché. Donc, je rassure les scrupuleuses. Quant aux femmes qui ne sont pas mariées ou qui ne veulent pas ou ne peuvent pas l'être, elles ne peuvent pas non plus, sans péché, désirer d'exciter la convoitise des yeux, ce qui serait excité au péché. Si donc elle se pare dans l'intention de provoquer la convoitise, elle commet un péché mortel. Si c'est vraiment le but. Et aujourd'hui, les vêtements provoquants, ça manque pas. Si donc elle se pare dans la... Mais si elles le font par légèreté, par vanité, par ostentation, leur péché peut n'être pas toujours mortel, mais seulement véniel. S'il y a un peu de recherche de soi derrière, quoi. Coquetterie. Et ces mêmes principes s'appliquent aux hommes. Oui. Égalité. C'est pourquoi saint Augustin écrit « Je ne vous conseillerais cependant pas de prendre une décision précipitée sur l'interdiction des parures d'or et la richesse des vêtements. » Ah, saint Augustin est modéré, ça plaît. Et, si ce n'est à l'égard de ceux qui, n'étant pas mariés ou ne désirant pas l'être, doivent seulement songer aux moyens de plaire à Dieu. Pour les autres, ils ont les pensées du monde, les maris cherchent à plaire à leurs femmes et les femmes à leurs maris. Toutefois, il ne convient pas aux femmes, même mariées, de laisser voir leurs cheveux, car l'apôtre leur défend de sortir sans être voilée. Voile des femmes. Et même, il n'y aurait pas de faute à outrepasser cette dernière recommandation, saint Thomas d'Aquin, quand même très, très, très large, si on le faisait, non par vanité, mais pour se conformer à l'usage, encore que cet usage soit répréhensible. Vous voyez donc, bon, sortir dans la rue les yeux découvertes, c'est un usage aujourd'hui. Autrefois, on n'aurait pas eu idée de sortir découvert, y compris pour les hommes. Nos grands-parents avaient tous un couvre-chef. On disait être habillé de la tête aux pieds. Aujourd'hui, on est habillé du cou aux pieds. Quoi. Enfin, et c'est la ruine des chapeliers. Solution, ça prend du temps tout ça. Solution. Donc la première question c'était, on disait, Saint-Pierre dit que les femmes ne tressent pas les arts, enfin ne s'ornent pas d'or, etc. N'ajustent pas leurs habits, et Saint-Cyprien aussi était assez ferme. Réponse. Il s'agit ici des femmes de ceux qui étaient dans la tribulation. Elles méprisaient leur mari et se paraient pour plaire à d'autres, alors que c'était pas le moment. C'est cela que Saint-Pierre leur défend. Saint-Cyprien parle aussi, dans le même sens, sans défendre aux femmes mariées de se parer pour plaire à leur mari et les retenir auprès d'elles. Que les femmes, dit Saint-Paul, soient en vêtements décents, se parant avec pudeur et simplicité, sans tresses, or, perles ou habits somptueux, qui à l'époque étaient des manifestations ostentatoires pour attirer le regard. Et on passait dans un grand train, c'était la vanité, quand il n'y avait pas derrière des problèmes de luxure. Mais ça revient à tous ces problèmes parce que nous vivons dans une société païenne. Ce qui signifie qu'une parure sobre et modeste n'est point interdite aux femmes, mais seulement ce qui dénote l'excès, la hardiesse et l'impudicité. Vous voyez, la morale, la juste mesure, c'est toujours la modération. Pas chercher à attirer les regards et à se singulariser, à pas faire comme les autres, etc. L'excès, la hardiesse, l'impudicité. Deuxièmement, c'était Saint-Cyprien qui allait pas avec le dos de la cuillère sur celles qui se refont l'œuvre de Dieu, qui défont l'œuvre de Dieu. Les phares dont parle Saint-Cyprien sont une espèce de mensonge qui ne saurait être sans péché. Il s'agit des phares On dirait aujourd'hui maquillé comme une voiture volée. Vous savez, ça existe. Quant au fard que mettent les femmes pour donner plus de blancheur ou de couleur à leur visage, c'est une falsification et un trompe-l'œil. Leur mari même, j'en suis persuadé, ne voudrait pas être trompé de la sorte. Or, c'est pour eux seuls qu'elles doivent se parer. Encore est-ce une tolérance et non un ordre. C'est une citation de saint Augustin. Un tel abus n'est cependant un péché mortel que s'il implique une intention de luxure ou de mépris de Dieu. Bon, ce qui n'est pas dans le cas dans un honnête maquillage, quoi. Ce sont les deux cas visés par saint Cyprien. Donc, luxure, mépris de Dieu. Il faut enfin remarquer la différence entre feindre une beauté que l'on n'a pas et dissimuler une laideur que l'on a. Là, évidemment, bon, parfois, là, on peut, quoi. Alors, quelle qu'en soit d'ailleurs la cause, maladie ou autre chose, ceci est licite et conforme à l'enseignement de saint Paul. Les membres que nous tenons pour les moins honorables sont ceux que nous entourons de plus d'honneur. Donc, évidemment, si ce n'est pas pour dissimuler une beauté que l'on n'a pas, si ce n'est pas pour feindre une beauté que l'on n'a pas, mais pour dissimuler une laideur que l'on a, alors on peut y aller. Troisièmement, saint Thomas d'Aquin est quand même amusant. Et bon, puis ça donne quand même l'esprit qui est la lettre, quoi. Il faut réveiller. Alors, c'était sur l'abidôme, là. Une femme ne portera pas un abidôme. Réponse. L'appareil extérieur doit être en rapport avec la condition de la personne, eu égard aux usages communément reçus. Prendre les vêtements de l'autre sexe est donc mauvais en soi, d'autant plus qu'il peut y avoir là un danger pour la vertu. La loi de Dieu la défendait expressément parce que c'était là précisément l'une des pratiques superstitieuses des païens. Effectivement, il se passait des choses avec travestis, tout ça. Pareil échange a parfois cependant la nécessité pour excuse qu'il s'agisse d'échapper aux ennemis, qu'on n'ait pas d'autres vêtements ou quelque chose d'analogue. Vous voyez, mais dans des conditions particulières. Vous voyez, s'il y a une persécution, je quitterai peut-être la soutane, comme le père Brault, là, jésuite, là, pour échapper aux ennemis et clandestins. Mais c'est pas parce qu'il fera chaud que j'enlèverai la soutane. Parce qu'il paraît que clergyman, tout ça, là, il paraît que c'est beaucoup plus léger, l'été. Ça. J'ai entendu ça de la bouche de prêtre. Donc, Donc, vous voyez, Alors, voilà quelques... je continue, mais ça a sonné, alors j'arrête. Donc, voilà, saint Thomas d'Aquin en parle. Donc, c'est important, et ça dénote certainement notre mondanité au sens large, enfin, notre appartenance au monde, ou pas. J'ai été trop long, une fois de plus. J'avais encore des choses à dire, tant pis. En conclusion, 5 minutes encore. Car le sujet de cette instruction n'était pas du tout ça. Mais l'éducation des enfants. Et notamment, vous parlez un peu de l'Institut Saint-Pédis. Mais je crois qu'il fallait un petit peu poursuivre. Le principe de l'éducation, en 5 minutes, je vous rassure, je n'irai pas jusqu'au goûter, n'ayez pas peur, il est donné ici par saint Jean Chrysostome. Beaucoup de pères, il s'adresse surtout aux hommes, mais faites l'adaptation. Beaucoup de pères, pour procurer à leur fils un beau cheval, une maison luxueuse, un riche domaine, font tout et mettent tout en œuvre. Mais que l'âme soit vertueuse et sa volonté pieuse, il n'y attache aucune importance. Et c'est là ce qui bouleverse le monde. Que nous négligions nos enfants, que nous prenions soin de leur fortune et dédaignions leur âme, admettant ainsi une conduite qui est le comble de la folie. Donc c'est vraiment les biens matériels, et ça c'est être mondain. Quand même, il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi les études que l'on fait, les préoccupations purement matérielles. Et ici, j'en parle parce que nous vivons en France spécialement dans un état très laïque, très laïcisé, où justement la religion a toujours tendance à être vraiment... Il y a deux domaines, et ça, c'est très nuisible à la cohérence de nos vies, de nos choix, aux études que nous menons, et aussi à l'éducation des enfants. Quoi. Ce à quoi nous devons viser, ce n'est pas rendre les enfants riches en argent, en or, en avantages de ce genre, mais nous devons faire en sorte qu'il soit opulent, par-dessus tout en piété, en sagesse, en trésor de vertu, qu'il nous ait besoin de peu, qu'il ne soit pas fasciné par les biens de ce monde et les désirs inconsidérés. On retrouve ici les convoitises, la concupiscence. Nous devons nous tenir exactement au courant de leurs allées et venues, de leurs passe-temps, de leurs fréquentations, sachant que si nous sommes négligents sur ce point, Dieu n'aura pour nous aucun pardon. Si on nous demande compte de notre sollicitude pour les autres en général, saint Paul dit que chacun cherche non pas son bien, mais celui du prochain, à combien plus forte raison de notre sollicitude pour nos enfants. Il est normal que les parents s'inquiètent de ce que font leurs enfants. « Ne l'ai-je pas mis chez vous dès sa naissance ?» nous dira le Seigneur. « Ne vous ai-je pas préposé à sa conduite comme instituteur, protecteur, surveillant et maître ? N'ai-je pas remis entre vos mains l'autorité complète sur sa personne ? Dès sa tendre enfance, je vous ai ordonné de le façonner, de le diriger. Quelle indulgence méritez-vous si vous voyez ses écarts d'un œil indifférent ? Que direz-vous ? Qu'il est malaisé à conduire, d'un caractère difficile ? Ces choses dont il fallait vous apercevoir au début, quand il était temps, quand il était tout jeune et maniable, il fallait le soumettre aux freins rigoureusement, l'accoutumer au devoir, le dresser, réformer les infirmités de son âme. C'est dans le temps où cette âme était plus facile à cultiver qu'il fallait y sarcler les épines, au temps où, en raison de son âge plus tendre, elle s'arrachait sans peine. Ainsi, ses passions n'auraient pas été négligées, elles n'auraient pas grandi, elles n'en seraient pas venues au point qu'il est difficile d'en triompher. Bon. Principe d'éducation des enfants. L'étude des passions, des caractères de l'enfant, c'est dès qu'on s'en aperçoit qu'il faut veiller dessus. Pas laisser, sinon les défauts dominants deviennent tellement dominants qu'on ne voit plus que ça. Et puis, c'est très dur pour l'enfant lui-même qui aura grandi un jour d'arriver à retraver son défaut dominant parce qu'il aura laissé trop son tempérament, ses passions, partir dans tous les sens. Quand il n'aura pas commis l'irréparable. Donc, premier point, l'éducation, le principe d'éducation, il est là. Ne pas avoir plus de sollicitude pour un cheval, une maison, de riches domaines. Bon, aujourd'hui, on dirait la télévision, pourquoi les voyages, les RTT, le Club Med, je sais pas, et mettre l'âme, les vertus, l'éducation assez stricte, c'est sûr, demander pour se corriger. Et puis, l'autre point qu'il faut aborder aussi, c'est, je vais être très rapide puisque j'ai pas le temps, ça a sonné, c'est l'aspect, de nos choix, de la cohérence de nos choix, spécialement dans les écoles, et je parle aussi en tant que recteur de l'Institut universitaire Saint-Pédis à Paris. Ça veut dire quoi, le Christ-Roi ? Omnia historia in Christo. Formidable. Vive le Christ-Roi, c'est très beau. C'est pas un slogan, c'est tout. C'est pas des mots. Ça veut dire quoi, le Christ-Roi ? Ça veut dire que la société, nos familles, la société en général, les entreprises, les corps de métier soient inspirés de la doctrine sociale de l'Église. Cela veut dire, comme dit Saint-Pédis, en 1907, en 1904, il vient d'être élu pape, le jour où dans chaque cité, dans chaque bourgade, la loi du Seigneur sera soigneusement gardée, les choses saintes entourées de respect, les sacrements fréquentés, en un mot, tout ce qui constitue la vie chrétienne remise en honneur, il ne manquera plus rien, vénérable frère, pour que nous contemplions la restauration de toutes les choses dans le Christ. C'est ça, voilà le programme. C'est simple, c'est que nous voyons la loi du Seigneur partout gardée, observée, et cela à l'école, école catholique donc, et également à l'université, université catholique donc. C'est simple. Alors, donc il y a cohérence des choix. Donc évidemment, il y a des choses que je vois et qui ne sont pas normales. Il n'est pas normal, évidemment, que le premier souci du... D'abord, il y a deux choses. Il y a vraiment, me semble-t-il, c'est naturel, car nous sommes des animaux politiques. Et la grâce suppose la nature. Nous vivons une crise, nous vivons une société qui est révolutionnaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a, logiquement ? Logiquement, c'est logique. C'est qu'à un moment ou un autre, on recherche la reconnaissance des institutions. C'est naturel dans une société politique bien organisée. On recherche la reconnaissance des institutions. La Sorbonne, ça fait mieux que l'Institut Servidis. Mais la Sorbonne, c'est plus Sorbon, aumônier de Louis, de Saint-Louis, c'est plus Sorbon. L'université n'est plus catholique. D'où la création des instituts catholiques. Simplement. Pour pallier à la formation à l'université laïque. C'est tout. La Sorbonne est sans Sorbon, si vous voulez. C'est une image. Bon. C'est un exemple que je donne. Mais c'est naturel, il faut résister. Et là, on revient avant à, je pense, enfin, c'est le combat à mener, de résister à dire, on va enfin pouvoir trouver des institutions qui c'est neutre, c'est pas marqué. Comme ça, on sort du ghetto, comme on dit, tradit. Nous ne sommes pas tradis, nous sommes catholiques. Catholiques sans épithète, comme disait un confrère. C'est tout. Et je crois qu'il faut j'ai pas le temps, mais il faut souvent arrêter, je pense à des jeunes, etc., que je vois, arrêter d'avoir peur de son ombre. Sinon, on restaurera rien du tout. C'est évident qu'on ne restaurera rien du tout. Et donc, il y a un travail de conviction. Autant on voit des jeunes pour qui c'est évident quand on quitte, bon, vous êtes des jeunes filles, donc quand on quitte les écoles dominicaines en particulier, c'est évident, on va à l'institut, ou qu'on aille ailleurs. Voilà. Sinon, on arrive à des gens, à des situations, mais abracadabrantes. Par exemple, telle famille qui m'explique, on n'en parlait pas, monsieur l'abbé, c'est fou. Ma fille perd la foi. Évidemment. D'une école où on est un monde catholique organisé, comme ici une retraite, vous voyez. On se retrouve tout seul, isolé, dans des salles où on est la seule catholique, tradie, entre guillemets, hein, catholique sans épithète, je préfère. Évidemment, on ne peut pas ne pas subir l'influence de l'entourage. C'est logique. Donc, faut pas après s'étonner que les convictions, la piété s'effritent. Et ensuite, on voit parfois des naufrages. Ou encore, il faut pas s'étonner de dire, ah oui, monsieur l'abbé, c'est effrayant, ma fille, c'est pas ce qu'on lui fait lire, le marquis de Sade. Oui, pourquoi? Parce que Gertrude, c'est un très joli nom, elle est à la Sorbonne en lettres classiques. Ou en licence, programme obligatoire, en littérature française, on étudie le marquis de Sade. Alors qu'à 500 mètres, il y a l'Institut Saint-Pédis, où on étudie Bernanos, Dorgelès, des gens normaux, quoi. Et même des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Oui. Et ainsi, aussi, il faut que j'arrête vraiment, mais donc la cohérence des études, hein, c'est et ça formera aussi des jeunes filles et des femmes... je dirais, riche, je pense aux études littéraires. Vous voyez, je vous ai cité Tacite, Ovide, Saint-Augustin, Saint-Jean-Chrysostome. C'est des auteurs, la plupart du temps, oubliés. La patristique, c'est des choses que seule une université catholique enseigne. Mais il n'y en a pas 36. Il n'y en a plus qu'une. En philosophie, c'est pareil. En philosophie, si la philosophie n'est pas ordonnée à la théologie, c'est plus de la philosophie chrétienne. On fait de la philosophie pour l'orgueil de la vie, oui, ça, je vais bien le croire. Et on fait des intelligences complètement déconnectées du réel, et de la vérité, et de l'agir droit humain. Je prends toujours l'exemple, je m'arrêterai là-dessus, c'est presque promis, quand je suis arrivé jeune prêtre en 2000, on était encore à l'époque aligné sur la Sorbonne. Donc on était contraint par les programmes de la Sorbonne. On commençait en philosophie en première année par la justice d'abord chez Aristote, impeccable, et puis ensuite chez Kant et puis je sais plus chez qui. De la philosophie morale, on n'avait qu'une formation étriquée sur un point, un domaine, la justice, le livre 5. On se plongeait dans le livre 5 de l'Éthique à Nicomaque, alors qu'avant le livre 5, je vous l'apprendrai pas, il y a le livre 1, 2, 3 et 4. Et qui a une continuité. On étudie la justice sans savoir ce que c'est qu'un acte humain, ce que c'est que la morale, ce que c'est que le bonheur, la fin ultime de la vie humaine, qui sont étudiés avant par Aristote dans l'Éthique Nicomaque. Donc si on n'a pas une vue très droite et unifiée du savoir humain, je parle de ce que je sais faire, donc je n'enseigne pas les mathématiques, il est évident qu'on va former des cerveaux sont très brillants, très particularisés, sur des compartimentés, je dirais, sur des sujets très précis, mais qui n'auront aucune vue d'ensemble de ce qu'est un homme, de la fin, le bonheur, et des moyens pour y accéder, les vertus, vertus qui ne sont pas que la justice, mais d'abord la prudence, et la tempérance, la force. Et bon, c'est un exemple, mais tout est comme ça aujourd'hui. Et tout ça parce qu'on recherche le nom, la reconnaissance des institutions, mais les institutions sont mauvaises. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il faut bien sûr que nous ayons à cœur, dans cette réforme de vie, dans cette vie chrétienne qu'il nous faut mener, eh bien, avoir aussi dans le choix de nos études, dans le choix de ceux qui nous forment, des maîtres, eh bien, avoir un peu de clairvoyance et de bon sens. Sinon, on se retrouve, je vous dis, avec le marquis de Sade obligatoire. On peut pas, et malheureusement, très peu de gens vont dire, bon, tant pis, je m'en vais. Elle aurait pu partir, cette jeune fille. Ben non, elle s'est coltinée, c'est un peu familier. Enfin, elle s'est appuyée, marquis de Sade. Ce qui est scandaleux. Et comment des parents catholiques peuvent laisser leur fille lire ça? Ça, c'est une chose que je ne comprends pas. Bon, la vie, ça relève du confessionnel. Et ensuite, des gens qui me disent, vous pouvez pas savoir ce que c'est, monsieur l'abbé, de passer son temps à écrire contre ses convictions. Et des jeunes filles qui sortent des écoles dominicaines, enfin, ou de chez nous, c'est pareil, enfin, il ne s'agit pas de jeter la pierre. Elles ont été. Voilà. Tout ça parce que, vite qu'on s'en aille, et qu'on cherche cette reconnaissance des institutions, qu'on soit un peu moins catholique. Si on est moins catholique, on fait moins pour le bon Dieu, on fera forcément plus pour le monde. Et voilà. Donc ensuite, bien sûr, les vêtements, les fréquentations, tout ça, ça s'ensuit. L'homme est un animal politique. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà pour vous dire que le Christ au roi, il faut y croire, c'est sûr, mais c'est pas que des mots, il faut aussi mettre en action, appliquer par des convictions et aussi une cohérence dans le choix des choses. Bon, j'ai quelques tracts, mais je pense pas que ça soit sur nos cours, mais comprenez bien cette importance du combat que la fraternité même mène à son petit échelon. Et que omnia sera in Christo, c'est tout l'homme qu'il faut restaurer à la mesure du Christ. Je vous remercie.